Merci à Guy pour cette introduction christocentrée. Merci à une église qui chante aussi, parce que ce matin l'église chante, ça s'entend. Et puis une dédicace particulière à quelqu'un qui a du mérite de jouer du trombone aujourd'hui, parce qu'il est papa depuis quelques jours, Pierre. Chapeau. Michael, si tu veux bien lancer le diaporama. Voilà. Ce matin, je vais vous livrer mes déambulations des 15 derniers jours avec un personnage que j'ai redécouvert, qui s'appelle Ézéchias. Alors nous allons faire un tout petit peu d'histoire, je vous rassure, pas beaucoup, mais il faut quand même en faire un minimum pour situer Ézéchias ce matin, et donc voir un petit peu dans quelle tradition il s'inscrit. Alors c'est écrit petit, mais le but n'est pas de lire, c'est simplement resituer les choses tout en haut, au milieu Saül, David, Salomon, et puis Salomon meurt. Israël est alors un peuple extrêmement puissant. Mais tout ce qui a été construit par Salomon et par David avant lui ne va pas tarder à être remis en question. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël vont naître d'une séparation entre les différentes composantes, différentes tribus, et vous avez à gauche le royaume de Juda, là toute la lignée des rois, et à droite la lignée des rois d'Israël. Et les rivalités, après la mort de Salomon, se sont réveillées. C'est une période qui est tout à fait tourmentée qui commence. Israël et Juda vont être en conflit fréquemment et passer des alliances, chacun avec des puissances étrangères, pour se protéger l'un de l'autre ou s'attaquer l'un l'autre. Le royaume d'Israël au nord compte 10 tribus et va mettre à peu près 200 ans à progressivement se déliter, à se décomposer petit à petit, jusqu'à ce que l'Assyrie, c'est la lignée qui s'arrête le plus tôt là, voyez, jusqu'à ce que l'Assyrie amène en exil la population de ces 10 tribus. Le royaume de Juda, qui est au sud et qui comprend Jérusalem, va mettre un peu plus de temps, il va mettre 330 ans, à se décomposer quand même lui aussi, peu à peu, jusqu'à la déportation à Babylone, pour ce qui le concerne. Et c'est ce royaume du sud, celui de Juda, qui nous intéresse aujourd'hui. Il va connaître une vingtaine de rois successifs, et l'histoire de ces rois est racontée dans le deuxième livre des rois, bien entendu, dans le livre des rois, mais aussi dans le livre des chroniques. Et c'est une histoire qui est faite de haut et de bas, avec des rois héroïques et des rois catastrophiques. Il y en a deux d'entre eux qui sortent, malgré tout, du lot, si je puis dire. C'est Ézéchias et c'est Josias. Ézéchias, aujourd'hui, il retient notre attention. Il y a une flèche en face de son nom, vous voyez, c'est le 13e roi sur 20. Et il va régner 29 ans. Alors Ézéchias, si ça veut bien passer. Ça ne veut pas, si. Ézéchias, quelle enfance! Son histoire nous est racontée dans le livre des Rois et des Chroniques, comme je l'ai dit. Ces deux livres de l'Ancien Testament, qui sont rédigés pour l'un environ 150 ans après les événements, le livre des Rois, et pour l'autre 250 à 300 ans après les événements. Et ça nous raconte finalement, ces deux livres, l'histoire d'un homme vraiment très attachant. Mais c'est un troisième livre, celui d'Ésaïe, le prophète, qui constitue le témoignage le plus poignant. Car ce témoignage, c'est celui d'un contemporain d'Ézéchias. Ésaïe et Ézéchias sont contemporains. Ésaïe va même être partie prenante de son histoire. Alors, quand vous aurez un petit peu de temps dans la semaine, je vous invite à reprendre ces chapitres 36 à 39 et à les lire pour restaurer toute cette histoire d'Ézéchias qui est absolument passionnante. Il est arrivé au pouvoir à l'âge de 25 ans. Il vient de vivre les 16 ans de son règne, du règne de son père, pardon, qui ont été complètement calamiteux. Alors je lis juste deux extraits, mais c'est pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en était. Deux Chroniques 28, 1 à 4. Achaz avait 20 ans, son père, lorsqu'il devint roi, et régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit la même chose. Il fit même fabriquer des idoles en métal fondu pour les Baals, brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et fit passer ses fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. En clair, Achaz a réintroduit le polythéisme. Il a adopté les plus horribles coutumes des peuples, voyez, faire passer ses fils par le feu, et il s'est détourné complètement de Dieu, et les conséquences en sont terribles. Juda est militairement battu par le roi de Syrie, je dis bien de Syrie, pas d'Assyrie, le roi de Syrie. Et puis ce qui reste du royaume de Juda subit des attaques nombreuses de la part de ses voisins du sud. Alors Achaz cherche une protection, cette fois-ci auprès des rois d'Assyrie, qui ne l'aident pas, mais qui l'enfoncent encore. Achaz cherche à acheter sa protection en faisant des cadeaux à l'Assyrie, et là encore, c'est un échec. Et là, comble du comble, je vous lis 2 Chroniques 28, versets 22 à 25. Alors même qu'il était dans la détresse, il persista dans son infidélité envers l'Éternel, lui, le roi Achaz. Il offrit des sacrifices au dieu de Damas, qu'il avait frappé, et dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur offrirai des sacrifices pour qu'ils viennent à mon aide. » Mais ils provoquèrent sa chute et celle de tout Israël. Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit faire des autels à tous les coins de rue de Jérusalem. Achaz a sciemment ignoré l'Éternel. Alors Ézéchias a vécu tout cela. C'est une lente déchéance. En tant que nouveau roi de Juda, Ézéchias va néanmoins prendre le total contre-pied de son père. Dès qu'il est en place, premier jour, premier mois de son règne, il se met au travail, sans attendre. Et il commence par ce qui lui paraît à lui totalement essentiel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David, la première année de son règne, le premier mois. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites qu'il rassembla sur la place orientale et il leur dit, « Écoutez-moi, lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. » Et les lévites vont mettre 15 jours à nettoyer le temple. 15 jours entiers. Vous imaginez dans quel état était ce temple. Alors c'est Ézéchias le décidé. C'est aussi Ézéchias l'enthousiaste. Il organise dans la foulée de ce grand nettoyage une fête gigantesque où on remet à l'honneur la musique, où on se remet à chanter les psaumes de David qu'on ne chantait plus, et les psaumes d'Asaph, et qu'on avait bien oublié, mais alors depuis quelques années. C'est Ézéchias aussi le réunificateur. Israël et Juda étaient devenus des ennemis. Que fait Ézéchias? Il va tenter de les rassembler autour de la fête de la Pâque. C'est la fête du peuple d'Israël par excellence. Il envoie des messagers dans tous les territoires autour. Certains vont se moquer de cette invitation, mais d'autres vont y répondre. Et il fait monter comme cela à Jérusalem les membres d'une famille qui est divisée, mais il rappelle à travers la Pâque ce qui en fait l'unité, c'est-à-dire le rappel de la délivrance d'Égypte. Et en fait, il fait reprendre au peuple le chemin de sa propre histoire. Deux Chroniques 30, versets 26 et 27. Il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis le règne de Salomon, fils de David, sur Israël, on n'avait rien vu de pareil à Jérusalem. Voilà ce que réalise le réunificateur. Mais Ézéchias est aussi l'organisateur. Après la fête, Il va redonner des bases solides au culte, réorganiser tout le système des offrandes, redéfinir les rôles des uns, des autres, dans le temple et alentour, et il va aussi s'occuper d'assurer la subsistance des prêtres dans les villes et les villages qui sont en dehors de Jérusalem. En clair, il restructure. Et conclusion de Chroniques 31, versets 20-21, c'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Dans tout ce qu'il entreprit en faveur du service de la maison de Dieu, de la loi et des commandements, il agit en recherchant son Dieu de tout son cœur et il connut le succès. Alors bref, on pourrait se dire, l'histoire d'Ézéchias, c'est, comme on dit aujourd'hui, une success story. Ézéchias peut même se permettre de retrouver une certaine indépendance. Voilà pourquoi Ézéchias est aussi, au début de son règne, un indépendant. Il refuse désormais de payer le tribut à ceux qui ont le pouvoir autour, ce sont les Assyriens, et qui assurent la protection contre ce qu'il faut bien appeler une rançon. C'est une rançon. Un tribut, ça n'est jamais qu'une rançon. Tu me payes ou je t'envahis. Eh bien, Ézéchias, on ne sait pas si c'est tout début de son règne ou quelques années après, va refuser de payer ce tribut. Et il va affirmer ainsi l'indépendance politique, militaire, par rapport à la Syrie, et sa dépendance à l'égard de l'Éternel. Et cette attitude va être célèbre dans toute la région, y compris chez ses ennemis. Mais c'est trop beau. C'est trop beau, et le temps des épreuves arrive. Depuis quelques années, la Syrie a accentué sa pression autour de Juda. On sait comment il procède, mais vous savez, dans d'autres époques aussi, on a vu ça, hein, dans ces contrées du Moyen-Orient. Ils prennent des villes, ils remplacent les populations autochtones par leur population, venue de tout l'Empire assyrien, et c'est l'asservissement garanti. Ézéchias a continué à travailler. Il a fortifié la ville, il a relevé ses défenses, les tours, les murailles, il a même sécurisé l'approvisionnement en eau de Jérusalem. Il a empêché les envahisseurs potentiels d'avoir accès à la source qui abreuve Jérusalem. Il l'a réintroduit dans la ville avec des protections des murailles. Il a été prévoyant, en quelque sorte, on peut dire qu'Ézéchias a fortifié la confiance de son peuple. Et 2 Chroniques 32, 6 à 8 nous le montrent. Il désigna des chefs militaires à la tête du peuple, puis les réunit autour de lui sur la place de la porte de la ville, et toucha leur cœur en disant « Fortifiez-vous, soyez pleins de courage, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous, il y a l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Mais désormais, les Assyriens ne sont plus très loin. Ils sont à Lachish. Ils sont à 40 km de Jérusalem. Et Ézéchias est déstabilisé. Il va mal résister à cette pression. Et là commencent les erreurs. Il se rapproche des Égyptiens. Il noue une alliance avec le frère du Pharaon afin de se défendre contre les Assyriens. Il était sorti de ce jeu d'alliance et il y rentre à nouveau. Il n'a pas de chevaux, lui, il n'a que des soldats à pied. Or, les Égyptiens ont des chevaux, et c'est le soutien qu'il va aller chercher. Et on se demande si Ézéchias a eu connaissance de ce qu'avait écrit Ésaïe dans son chapitre 31, verset 1. Ésaïe dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas le regard sur le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Ésaïe l'a-t-il écrit après ? L'a-t-il dit avant ? Et voilà ce que le contemporain d'Ézéchias dit. Et puis deuxième élément, il recommence à payer le tribut il recommence à payer la rançon. Et on le voit verser 900 kilos d'or et 9 tonnes d'argent. C'est la rançon. Et la confiance qui est affirmée si fortement auprès de son peuple et de ses chefs militaires, cette confiance est en train de se défaire. Et les Assyriens s'engouffrent dans la brèche en venant narguer Ézéchias sous les murailles de Jérusalem. Voilà ce que dit un envoyé des Assyriens, l'envoyé de Sanchérib, qui est à l'époque sur le trône. Voilà ce qu'il leur dit. Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Ça se passe sous les murailles de Jérusalem. Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Et encore, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel vous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains. Sera livrée. Entre les mains du roi d'Assyrie. Erreur. L'épreuve que vit Ézéchias. Oui, c'est ça le texte. L'Éternel nous délivrera, cette vie ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie, et qu'Ézéchias ne croyait pas ce que vous dit Ézéchias. L'épreuve que vit Ézéchias en fait quelqu'un qui doute tout à coup. Bien sûr, son premier réflexe, le relisez ce chapitre, c'est de se rendre au temple, de déchirer ses habits et de se couvrir d'un sac. Et ces gestes-là, dans cette tradition-là, sont des gestes de repentance et d'humiliation, mais aussi de désespoir. Et Ézéchias est au plus bas. Mais moi, ce que je note ici dans ce passage, c'est son incapacité, à ce moment-là, à s'adresser directement à Dieu. Cet Ézéchias-là, nous pouvons parfois lui ressembler. Dans des temps de doute, au sein d'une épreuve difficile, nous allons au temple, à l'église, au lieu du culte, parce que nous ressentons ce besoin de retrouver notre ancrage. Cependant, même présent physiquement, comme Ézéchias, nous pouvons ne pas oser lever les yeux vers l'Éternel. Le premier pas, le réflexe que nous avons eu a consisté à rechercher la sécurité, le réconfort parmi les membres de notre assemblée, le partage de nos soucis, de nos préoccupations. Et la communauté est éminemment précieuse pour ça. C'est un fait. Mais comme Ézéchias, dans ce contexte-là, ce qui nous manque désormais, c'est la confiance. Pleine, entière. Voyez comme il s'y prend. Il envoie une délégation auprès d'Ésaïe et il fait transmettre un message. Je ne l'ai pas lu. En fait, le message est assez simple. C'est Ésaïe 37, versets 3 et 4. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont prêts de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké, l'homme que le roi d'Assyrie a envoyé pour insulter le Dieu vivant? Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. C'est ce peut-être qui me frappe dans ce texte. Il envoie des personnes vers Ésaïe. Il ne s'adresse pas à Dieu directement. Et il dit en plus, peut-être. Comment quelqu'un d'aussi sûr qu'Ézéchias peut-il flancher ainsi? Dans la description que fait le livre des rois du règne d'Ézéchias, il est écrit « Il mit sa confiance dans l'Éternel » comme une espèce de description générique de son attitude. Oui, certes, mais pas tout le temps, pas dans cette occasion-là. même si c'est ce que retiendra l'histoire de façon générale, il mit sa confiance dans l'Éternel. Il y a eu des moments où cette confiance faisait défaut. Alors Ésaïe va rassurer les envoyés d'Ézéchias. Voilà sa réponse. Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Pour autant, même si Ésaïe se veut rassurant à l'égard d'Ézéchias, ça n'est pas fini. Les Assyriens vont revenir à la charge, exprimer encore une menace violente, mettant en doute la capacité du dieu d'Ézéchias à empêcher l'invasion et la conquête de Juda par les Assyriens. En fait, à ce moment-là, la réaction d'Ézéchias va être toute différente. Vous allez voir qu'il fait face. De nouveau. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Vous voyez la scène ? Et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Et cette fois-ci, il ne passe pas par l'entremise de ses serviteurs et d'Ésaïe. Il s'adresse à Dieu directement. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays, leurs propres pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, et éternel. Voyez le changement d'attitude. Pas de vêtements déchirés, pas de sac comme vêtement, pas de peut-être. Ézéchias est monté au temple, mais il est surtout allé rencontrer son Dieu, et moi ce que je note, c'est qu'il est à nouveau debout. Si nous traversons nous-mêmes une épreuve, quelle qu'elle soit, la confiance en l'Éternel n'est pas une qualité que les uns auraient et que les autres n'auraient pas. Comme une sorte de talent personnel, plus ou moins bien distribué selon les personnes, là, on voit bien que la confiance, c'est un pas de foi. Et c'est un saut par-dessus les peut-être. Et Ézéchias a fait ce saut par-dessus les peut-être. Objectivement, pour Ézéchias, franchement, la situation n'est pas brillante. À vue humaine, elle est même perdue. Regardez ce qui se passe. Soyons réalistes. La Syrie, c'est tout ce courant vert qui est né à Assur, mais qui s'est étendu à l'est, au sud-est, qui est venu par le nord, qui est allé jusqu'en Égypte, qui a asservi les tribus d'Israël en violet, et qui maintenant se trouve à Lachish. S'est approché jusqu'à Lachish. Voyez ce qui reste du royaume de Juda, c'est peu, mais voyez surtout la puissance à laquelle ils ont affaire. Voilà ce que c'est la situation au moment où Ézéchias s'adresse à Dieu. C'est une situation, encore une fois, perdue à vue humaine. Alors vous pourrez relire ce chapitre d'Ésaïe 37 et voir que cette armée innombrable, à laquelle la victoire ne pouvait pas échapper, on parle de 185 000 hommes, c'est beaucoup, est-ce que c'est autant, est-ce que c'est plus, on n'en sait rien, mais 185 000 hommes, c'est ce que les textes rapportent, eh bien cette armée va être anéantie par une épidémie vraisemblablement de peste. Mais ce qu'il faut retenir surtout ici, c'est que dans ce contexte si sombre, Ézéchias se tient debout cette fois. Il faut souligner sa double préoccupation. Il exprime, être délivré bien sûr, mais aussi voir se manifester la gloire de Dieu. Et ça, à travers nos épreuves, quelles qu'elles soient, c'est une dimension qui n'est pas toujours présente à notre esprit. Ma délivrance, si je souffre, de quelque moyen que ce soit, par quelque cause que ce soit, c'est ce qui m'obsède. Et c'est de cela que je veux être allégé. et en même temps c'est humain. Mais dans le même mouvement, l'auteur de ma délivrance est glorifié à chaque fois à travers cette délivrance. Et c'est ce que dit Ézéchias. Alors, l'épreuve numéro 2 pour Ézéchias, ça va être la maladie. Il tombe malade, malade à en mourir. Il n'y a plus de doute sur le diagnostic. C'est si vrai qu'Ésaïe vient le voir et lui dit « C'est la fin. Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à la famille. Tu vas mourir. Tu ne vivras plus. 14 ans de règne. 14 ans de travail. Une délivrance miraculeuse de l'oppresseur assyrien. Et de nouveau, l'épreuve. Incompréhensible. Comment pouvons-nous être touchés à nouveau par une épreuve après en avoir franchi victorieusement une, voire plusieurs ? C'est exactement ce que vit Ézéchias. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il faut entendre la peine d'Ézéchias. Personnellement, elle me parle. Il a à peine 40 ans. Il n'a que 40 ans. Il est dans la force de l'âge. Pourquoi, Seigneur ? Je ne suis pas prêt. Et puis j'ai fait ce qu'il fallait, comme il le fallait. Depuis le début, premier jour, premier mois, on nettoie le temple. Ézéchias, c'est vrai, a été un homme de devoir, qui a pris des responsabilités dès le début. Il a radicalement changé les orientations politiques, militaires, religieuses de son père, Akaz. Et aujourd'hui, il est triste. Est-ce que cela, à nous aussi, nous arrive de reconsidérer que nous avons vraiment fait tout comme il fallait et que l'adversité et l'épreuve nous donnent l'impression de ne pas être en quelque sorte payé de retour. Je suis sûr que nous avons tous, à un moment ou à un autre, éprouvé ce sentiment. Ézéchias va composer une prière que je trouve extrêmement touchante, par sa sincérité. Voici la première partie de cette prière. Imaginez-le tourné contre son mur, en train de pleurer. Je disais au beau milieu de mon existence, je dois passer par les portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne pourrai plus regarder aucun homme en compagnie des habitants du monde. Mon habitation était enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Faut voir là l'image du corps. Pareil à un tisserand, j'arrivais au bout du rouleau de ma vie. Il m'arrachait à la chaîne de tissage. Avant la nuit, tu en aurais fini avec moi. Je me suis retenu jusqu'au matin, mais pareil à un lion, il brisait tous mes os. Avant la nuit, tu m'aurais achevé. Je poussais des petits cris, telle une hirondelle en train de voltiger. Je gémissais comme une colombe. Mes yeux se levaient épuisés vers le ciel. Seigneur, je suis accablé. Porte-toi garant pour moi. Je suis au bout du rouleau de ma vie. Je disais l'autre jour au conseil que les jeunes disent souvent « je suis au bout de ma vie ». Quand je suis fatigué, « oh, je suis au bout de ma vie ». Là, il est vraiment au bout du rouleau de sa vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Dieu va dire à Ézéchias, et c'est fait partie de ces passages où Dieu arrête le temps, quelque part, comme pour Josué, je crois qu'il n'y en a que deux dans la Bible, et Dieu arrête le temps et dit à Ézéchias, eh bien, je vais prolonger de 15 années la vie d'Ézéchias. Et il le dit par la voix d'Ésaïe. Voici ce que l'Éternel dit, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui de s'attarder sur le signe miraculeux qui accompagne cette promesse, où Dieu recule l'horloge d'Ézéchias, mais ralentit en même temps la course du soleil et fait remonter l'ombre sur les marches du temple de 10 marches, une espèce de pause dans la course du soleil, et prolonge ainsi la durée de la journée. Et je dirais d'ailleurs, est-ce que c'est le plus important de nous attarder sur le miracle qui accompagne la décision de Dieu? Parce que pour moi, le plus important réside ailleurs. Il y a d'ailleurs quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué dans la lecture que je viens de faire. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. Ces paroles, elles doivent résonner d'une façon très particulière à l'oreille d'Ézéchias. Dieu est en train de lui dire à Ézéchias qu'il se situe vraiment dans la filiation de David. En faisant cela, et en invoquant David par la bouche d'Isaïe, il valorise l'action d'Ézéchias comme étant dans la continuité de celui qui constitue pour les enfants d'Israël un modèle absolu, David. Ce que dit Dieu par la voix d'Isaïe, c'est « Oui, Ézéchias, tu as marché avec fidélité et intégrité, comme autrefois David. » Et c'est sans doute la parole dont avait besoin Ézéchias. Dieu le rassure et le réaffirme. Ensuite, il faut relever quelque chose qui témoigne d'un changement d'état d'esprit chez Ézéchias. Et ça, c'est la deuxième partie de sa prière qui nous l'apprend. Que dire? Il m'a parlé. Et c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années à cause de l'amertume dont j'ai fait preuve. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est grâce à elles que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. C'est le vivant. Oui, c'est le vivant qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. Et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Éternel, puisque tu m'as sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie, près de la maison de l'Éternel. Ézéchias, vous avez remarqué, j'ai souligné le mot deux fois, l'homme de devoir, celui qui a fait tout ce qu'il fallait, comme il le fallait, avait fini par en nourrir de l'amertume. Et il le réalise dans sa prière. Il ne se sentait pas payé de retour. Il n'avait pas le retour sur investissement auquel il pensait avoir légitimement droit. Et alors, quelle belle prière que celle d'Ézéchias. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est grâce à elles que j'ai encore un souffle de vie. Et à partir de là, tout est grâce et rien ne m'est dû. Rien ne m'est dû. J'ai laissé mon amertume derrière moi. Alors, est-ce que c'est la fin heureuse de l'histoire? Je vais terminer là-dessus. Une happy end, en quelque sorte. Pas tout à fait. Dans le dernier épisode, celui de la troisième épreuve, et malgré tout ce qu'il a appris de son expérience, Ézéchias ne va pas éviter toutes les erreurs. Cela nous apprend d'ailleurs qu'une victoire, c'est pas la victoire. Ézéchias va faire preuve de beaucoup de naïveté, mais aussi d'orgueil. Le roi de Babylone, qui a appris sa guérison miraculeuse, fait mine de s'intéresser à lui. Il lui envoie des ambassadeurs. Et que fait Ézéchias? Vous le savez si vous connaissez bien le texte. Il leur montre absolument tout. Ses richesses, son arsenal, ses armes. Absolument tout. Ézéchias a réussi dans tout ce qu'il avait entrepris, comme nous le rappelait 2 Chroniques 32, verset 25. Mais il en devient orgueilleux. Il en oublie sa prudence et il se confie à nouveau dans ses propres forces. Et là, il revient finalement à des erreurs anciennes. Il est assez fort à ses propres yeux pour faire une alliance cette fois-ci, non pas avec les Égyptiens, mais avec Babylone. Il en oublie sa dépendance encore une fois à Dieu. Et Isaïe va lui rappeler qu'il quitte cette dépendance. Dans Isaïe 39, versets 5 à 7. Voici ce qu'Ésaïe lui dit et lui annonce. Écoute la parole de l'Éternel, maître de l'univers. Les jours viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Voilà comment Ézéchias replonge. Conclusion. C'est dur de conclure sur une histoire qui mériterait beaucoup plus de commentaires et que j'ai parcouru à grandes enjambées. Je vous invite vraiment à relire ces quatre chapitres. J'ai beaucoup personnellement de tendresse pour ce roi Ézéchias. Tellement sincère et tellement oublieux. Peut-être parce que je m'y reconnais un peu. Il a vécu de vraies délivrances et c'est un homme qui est actif, qui est volontaire, qui a une foi remarquable. Il laissera d'ailleurs un souvenir positif, comme on l'a vu dans l'histoire du peuple juif. Mais son exemple nous montre que personne n'est à l'abri de l'erreur. Dès le moment où, comme lui, fort de mes succès, je ne fais plus confiance qu'à moi-même, je suis à côté de la plaque. Maudit soit celui qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel, et c'est Jérémie qui le dit, en chapitre 17, versets 5 à 7. Or, aussi fortes soient nos expériences, elles ne nous préservent de rien, même pas pour l'instant d'après, si nous ne nous rappelons pas constamment que nous sommes dans la dépendance constante de la grâce de Dieu. Et je termine en vous livrant une parole de Jacques 1, versets 16-17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel, j'aurais tendance à rajouter à la différence de moi ou d'Ézéchias, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen.